pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Non à la guerre ! Oui à la culture ! Non à la guerre ! Oui à la culture ! Rachida, casse-toi ! La culture n'est pas à toi ! Rachida, casse-toi ! La culture n'est pas à toi ! Rachida, casse-toi ! La culture n'est pas à toi !
Ça alors ? Des gens de culture enfin dans la rue après des décennies de silence de la galaxie culturelle française. Si ce n'est quelques intermittents du spectacle qui sont parfois sortis du bois pour nous rappeler que ça peut être difficile de boucler 507 heures de travail en 43 cachets. Mais aujourd'hui, on ne va pas vous parler d'une action corporatiste, bien au contraire, on va vous rapporter un discours solidaire avec toute la société. Propos comme on n'osait même plus en attendre d'un monde de la culture aphone depuis si longtemps. Un monde que l'on a à peine vu et entendu au cours des mouvements sociaux qui agitent le pays depuis des décennies. Impression que jusque-là, les gens de culture ne se seraient pas sentis concernés par la casse de la société menée depuis 40 ans par les gouvernants qui défilent. Et puis ce 20 mars 2025 donc, manif tout à fait enthousiasmante, action avec évidemment des intermittents du spectacle, mais aussi d'autres statues, d'autres travailleuses de la galaxie culturelle. Salut les amis, c'est JBD pour la voix off, culture avec un S en lutte, avec les services publics, tous ensemble, ouais, bah ouais.
Nous sommes des parents tout à fait concernés par le Pass Culture parce que nous avons une fille en première qui fait option théâtre et qui bénéficie du Pass Culture pour les spectacles annuels qui sont proposés par son établissement. Donc là déjà, ça risque d'être quand même un petit peu compliqué de financer tous les spectacles pour la terminale.
20 mars 2025, des manifs culture ont eu lieu un peu partout en France. On vous propose de passer l'heure qui vient pour suivre l'une de ces actions, c'est dans la ville de Tours. Région Centre. Et ça commence par une dizaine de postes de radio posés par terre dans la rue.
Là, il y a des profs qui avaient des projets, c'est mort quoi. Et c'est aussi terriblement violent parce que, en fait, on se rend pas compte, mais les profs, ils préparent les projets, enfin, c'est pas pour rigoler quoi.
Voilà, on est aux environs de midi en haut de la rue nationale à côté du CCC OD, donc c'est le centre d'art contemporain local, devant sur le trottoir. Une bonne dizaine de transistors qui diffusent tous la même chose, c'est des témoignages de gens qui évoquent leur rapport avec ce qu'on appelle la culture. Bonjour Tassiana.
Salut.
Taz est une copine et une musicienne, notamment guitariste.
Je fais plein d'autres bazars aussi, mais surtout de la guitare.
Qu'est-ce que c'est que tous ces transistors ?
Alors, c'est une petite action pour la mobilisation culture en lutte sur tous les métiers de la culture, mais aussi tout un ensemble de revendications. Et donc, on a commencé ce matin avec un petit orchestre de radio. J'émets moi-même de la radio dans la rue avec un petit émetteur non filaire sur pile. Donc, j'émets sur le 108. J'ai sorti un ensemble d'appareils, 10, qui me permet de diffuser dans la rue des interviews qui ont été faites par Radio Culture en lutte. On a récolté pas mal de paroles. Là, on a fait une déambulation ce matin dans la rue nationale en tractant un petit peu les gens. Et là, on s'est mis en fixe parce qu'on n'est plus que deux avec Béatrice sur ce dispositif qu'on appelle aussi un acousmonium hertzien.
Et vous avez demandé une autorisation pour émettre sur le 108 ?
Pas du tout. Wow. C'est complètement illégal, je pense, l'émission sur le 108. Puis l'émetteur, ça a très peu de portée. On est sur 600 mètres.
Mais en fait, c'est de la radio pirate.
Complètement.
Donc aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Je me suis retrouvé dans une boucle là, d'informations et je vois que ça prépare, ça cogite, ça se réunit, ça gigote. Et aujourd'hui, c'est le grand jour.
Ça a été assez vite, en fait, en deux semaines, trois âgés peut-être. Ça a tracé un petit peu sur un certain nombre d'actions. Coopération aussi avec les artistes auteuristes. L'idée aussi d'essayer de faire transversalité le plus possible avec toutes les autres luttes possibles parce que là, on est très concerné avec le Pass Culture. Des ponts entre justement les faiseurs d'animation et l'éducation nationale. Ce qui est assez chouette dans la mobilisation, c'est qu'il y a aussi tous les lieux de diffusion qui sont là. On sent qu'il y a un truc qui est très commun et peut-être qu'ils voudraient aller plus loin. Peut-être un gros truc contre le fascisme, contre Trump et Elon Musk pour 2027.
Est-ce qu'on peut survoler un tract ?
Oui, alors déjà, sur la face avant du tract, on a « Culture en lutte avec les services publics ». Ça, c'était assez important pour nous de se rallier à différentes causes apparaissaient dans nos pénates seulement. Artistes, auteuristes, intermittents, salariés, indépendants, enseignantes, étudiantes, agentes de médiation culturelle.
Et il y a des points de suspension.
Le sursaut un peu, c'est lié aux coupes budgétaires, notamment qu'on a pu voir à l'œuvre en région Pays de Loire, avec 77% en moins de la part de Christelle Morançais.
Une grande admiratrice de Musk, paraît-il.
Exactement, grosse trumpiste de ouf.
Madame tronçonneuse de la Loire.
C'est ça, bonne élève en fait, qui montre un peu la voie pour avoir la timbale aux prochaines élections. Montre la voie de beaucoup de zèle pour dire « Ok, on nous a demandé de garder des sous pour l'armement, donc on va le faire bien comme il faut. » Parce qu'en fait, là, il s'agit de ça aussi, c'est de se dire « Attendez, où va l'argent ?» On a eu des avancées face à la taxation des ultra-riches, mais bon, concrètement, on est quand même dans un problème de captation des richesses à l'échelle mondiale et que là, il serait temps que les choses se répartissent. Et puis surtout, là, la question, c'est de dire « Est-ce qu'on met de l'argent dans la culture ?» Est-ce qu'on en met moins dans la culture pour mettre plus dans l'armement? Enfin, quels sont nos véritables enjeux pour le futur?
Chapitre, nos revendications.
Il y a la situation des artistes auteuristes et tous les travailleuses précaires de notre secteur. Donc ça concerne quand même pas mal les graphistes, les artistes plasticiens, les auteurs. C'est des statuts qui sont très, très particuliers. Donc là, en fait, ce serait vraiment une avancée incroyable qu'on puisse avoir une sécurité sociale stable pour eux, la continuité des revenus. Et puis aussi, voilà, il y a eu une loi, une augmentation du seuil de TVA pour tous les travailleuses indépendantes. Mmh. Et ça, notamment, ce serait bien que ce soit retiré parce que, effectivement, je pense qu'il y a des gens qui gagnent bien leur vie, puis d'autres pas du tout. Précarité totale pour ces gens.
Et ça peut englober aussi des plasticiens, des artisans, des artisanes.
Exactement, c'est justement pour tous ces secteurs-là, en fait, qui ne sont pas directement concernés par l'intermittence.
Dans la galaxie du monde de la culture, tout le monde n'est pas intermittent du spectacle. Alors, ce n'est pas un régime d'indemnisation qui est forcément très enviable, hein, et ce n'est pas un métier. Et c'est encore moins une statue coulée dans le bronze, parce que les gens disent un statut, non, et voilà, c'est un régime d'indemnisation. Mais dans le monde de la culture, il n'y a pas que des intermittents. Il y a plein d'autres gens qui ont plein d'autres statuts, comme travailleurs indépendants, par exemple, ou indépendantes.
Moi, ça me met en joie de me dire on est là pour s'indigner contre des choses qui sont en cours et qui ne nous conviennent pas, mais on est aussi là pour avoir des avancées sociales. Ça me met assez en joie de dire ben, en plus, on va essayer d'aller plus loin pour tous les copains, justement, avec qui on travaille tout le temps. On est tous, de toute façon, les mains dans la main. C'est-à-dire que même quand on fait que de la musique, à un moment donné, on va avoir besoin d'un graphiste, on va avoir besoin d'un vidéaste, on va avoir besoin de quelqu'un qui nous écrit un texte. Donc, les revendications, c'est l'arrêt immédiat des coupes budgétaires massives des subventions culturelles et associatives, la continuité de revenus et une sécurité sociale complète pour les artistes auteuristes et toutes les travailleuses précaires de nos secteurs, le retrait du projet de réforme de l'audiovisuel public qui fragilise ce pilier essentiel de la diversité des opinions et des diffusions, l'abrogation du gel de la part collective du Pass Culture qui permet des sorties scolaires culturelles pour toutes les élèves et surtout pour les moins favorisés, le renforcement d'un vrai service public de l'art et de la culture, l'abrogation de la loi dite plein emploi qui conditionne le RSA à 15 heures de travail hebdomadaire, le maintien du seuil de TVA pour toutes les travailleuses indépendantes et surtout le retrait de la loi sur la retraite. Moi, j'ai grandi en caravane, j'ai grandi en habitat léger, sur des friches industrielles. J'ai pas vu de concert très très tôt dans ma vie. La première fois que j'ai vu un concert avec un piano à queue, c'était grâce à l'école, c'est au collège, ils nous ont emmenés voir un concert de jazz à la Cité de la Musique à Paris. J'étais tellement à fond que j'ai applaudi pendant un court silence d'un morceau de ce pianiste. Et puis, il y a 2-3 ans, j'ai joué dans cette salle. Et j'ai réussi à retrouver la prof de musique qui nous y avait emmenés. Je lui ai téléphoné et je lui ai dit « Madame Rémas, demain je joue dans la salle où vous nous avez emmenés ». Et elle a été extrêmement émue, moi aussi j'étais extrêmement émue. Et je me dis tout ça c'est possible parce que je suis née en 81, c'est le moment où justement il y a une ouverture vers des façons de faire qui vont me permettre à moi, enfant d'un milieu pas du tout cultivé, d'aller à la Cité de la Musique écouter un truc et qui va faire que 30 ans après j'y joue. C'est la preuve qu'on avance et qu'il ne faut rien perdre là-dessus, quoi.
Pour notamment rebondir hein, sur l'un de ces points de revendication, l'abrogation du gel de la part collective du Pass Culture qui permet des sorties scolaires culturelles pour toutes les élèves et surtout les moins favorisés. Il y a quelque chose qui me met en joie sur cette affiche, cette mobilisation, ce qu'elle annonce, et c'est que je redoutais quelque chose de corporatiste.
Ouais.
Et c'est une bonne nouvelle de voir le monde de la culture à Tours, en tout cas dans la rue, parce que ça fait quelques décennies que c'est pas arrivé, ou alors par ersatz. Sur le dernier mouvement social de 2023, on a quand même eu le bonheur d'avoir les fanfares avec des gens de Jumbo System et Suck the Head qui ont mis de la joie et de la combativité dans le cortège, mais je crois que la dernière fois que j'ai vu un truc massif d'intermittents à Tours, c'était en 2003.
Ouais.
Cette journée de mobilisation n'est pas autour de revendications corporatistes. Sur le recto de ce tract, il y a marqué en gros « avec les services publics ». Et ça, ça fait du bien à lire.
Complètement.
Et puis là, dans l'échange tout à l'heure, dès le départ, en fait, tu as prononcé les mots antifascisme, réagir par rapport à ce qui se passe avec Trump, mais aussi chez nous, parce que voilà, la même chose se met en place. Mobilisation ouverte. Mais ça fait un moment que je demande aux copains intermittents, intermittentes, ouais, d'accord, vos revendications, elles sont légitimes, mais et le public dans tout ça,
bien sûr.
Les gens qui vous font vivre, et les gens qui payent des impôts, qui financent des lieux de culture ou... Et là, c'est affiché d'entrée de jeu, en fait, avec les services publics.
Ce que ça m'inspire, c'est que justement, je trouve qu'on a une responsabilité là-dedans. On est là aussi pour porter des paroles, évidemment. Moi, j'ai l'impression de faire ce que je fais dans la vie, surtout pour me mettre en lien et faire que les gens qui sont avec moi sur ce moment-là soient en lien aussi eux-mêmes. Je fais ça que pour ça, et ça pourrait être autre chose que de la musique d'ailleurs, finalement. Là, on est face à quelque chose de super anxiogène, d'hyper urgent.
De mortifère, en fait.
Donc on a une responsabilité quand même, justement, à essayer de favoriser le plus possible ce lien qui fait qu'on se parle, qu'on danse, qu'on rigole, qu'on est ému ensemble. Parce que sans ça, bah oui, on va aller vraiment droit dans le mur. À titre très personnel, j'ai l'impression d'être là aujourd'hui pour parler effectivement des baisses de subventions. Mais en fait, en vrai, je suis là pour 2027. En vrai, je suis là pour le futur de ma fille. Je suis là pour dire, est-ce qu'on peut se parler un peu ? Et d'ailleurs, l'orchestre de radio, c'est fait pour ça. C'est fait pour que ce ne soit pas trop impressionnant et qu'on puisse s'arrêter, causer un peu, comme c'est le cas là en ce moment avec Béatrice. Il y a quelqu'un qui parle. C'est juste pour se dire, bah, en fait, on ne fait pas peur. On n'est pas sur un plateau, là. Et si vous voulez, venez, on cause un petit peu... C'est un peu la suite d'une grosse sidération quand même. Moi, j'ai fait du porte-à-porte cet été. J'avais jamais fait ça là pour les législatives. J'ai été sonnée chez mes voisins dans le village. Là, on n'a plus d'autre choix que d'être dans l'interpersonnel. Il faut qu'on se parle.
Tu voulais parler de ce livre ?
Oui, je voulais parler d'un livre de Salomé Sacquet qui s'appelle « Résister », qui est un bouquin qu'on peut trouver à 5 balles un peu partout. Une source d'information concernant l'extrême droite dans une première partie du bouquin. Dans la seconde partie du livre, il y a plutôt des conseils comme un guide de conversation pour pouvoir aller vers celui qui ne vote pas la même chose que nous. J'ai quand même trouvé des ressources incroyables qui m'ont permis d'avoir une discussion sans heurts avec mes parents qui votent extrême droite. Ça, c'était fou. Est-ce que, papa, tu serais d'accord pour qu'on en parle maintenant ? Oui, non, c'est le dessert. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur les sources d'informations qu'on utilise, toi comme moi ? Tiens, regarde, je te montre Mediapart, il y a ces chiffres-là. Toi, t'écoutes quoi ? Maintenant, vas-y, viens, on parle de c'est quoi tes peurs ? Qu'est-ce que t'aimerais bien changer si t'étais élu président ? Et à partir de là, on peut parler. Et on a même été jusqu'à la colonisation, qui pour eux est un endroit de déni total. Et on a réussi à aller jusque-là, on a parlé de l'Algérie, et là du coup ça devient super intéressant parce qu'on ne s'est pas arrêté au premier truc de « on n'est pas d'accord, on est contre ». Il y a un truc très subtil dans comment on arrive à parler à l'autre pour qu'il puisse à un moment donné peut-être déposer les armes et dire « ouais t'as raison, c'est vrai qu'on pourrait choisir l'amour à la peur ». En fait c'est vachement dur d'être dans le même espace suffisamment accueillant pour que l'autre aussi puisse lâcher. Et si on n'est que contre, eh ben ça marche jamais ce truc-là. Et elle en parle vachement bien.
Tu nous rappelles le titre de l'ouvrage ?
Résister de Salomé Sacquet.
Cela dit, dans ce monde-là où tu es donc musicienne, ces coupes budgétaires, concrètement, toi, ça aurait quelles conséquences sur ton activité ?
Ben moi, j'ai assez de bol ces dernières années parce que ça se passe très bien. Là, les deux prochaines années, on va dire que ça va aller. Là où ça m'inquiète, c'est les corps, c'est comment on danse, comment on va dans les salles. Comment on fait quand même subtilement un peu moins la fête. Et ça, je pense que c'est un peu visible depuis quelques années. Et je pense que le Covid là-dedans, il a fait un peu du mal, ça c'est sûr. Comment on va réussir à être tous ensemble dans le même espace ? Il y a vachement d'entraves à faire ça.
Tu disais, moi je suis peinard, j'ai mes heures, enfin ça va aller pour les 2 ans qui viennent. Dans un pays où il y a des salles de spectacle qui ferment ou qui n'a plus les sous pour payer les techniciens, ça va être compliqué de monter sur un plateau.
Puis dans 5 ans ce sera fini en fait. Après moi je me suis toujours dit... En fait, je pensais même pas que je pourrais faire ça un jour. Donc, je suis toujours dans une espèce de découverte un peu candide du truc. Je me suis jamais dit que j'allais réussir à le faire jusqu'au bout. Bien sûr, je suis là pour me battre, pour pas que ça disparaisse. On a un système en France qui est complètement incroyable. Pour collaborer parfois à l'international, c'est vraiment fou ce qu'on peut faire ici. C'est génial, il faut l'entretenir. Alors oui, bien sûr, ça fixe un peu la création dans quelque chose de parfois un petit peu désincarné. Mais quand même, pour collaborer beaucoup avec le Mali ces dernières années, enfin, franchement, la situation de mes collaboratrices maliennes, c'est un délire. Donc prendre soin de ce qu'on a ici à fond, s'en servir pour se mettre vraiment en lien, ne pas exclure, et puis bah, surtout se parler les uns les autres en fait.
Pour se quitter, est-ce qu'on peut s'écouter quelque chose de toi à la guitare ?
Il y a un morceau sur mon dernier disque en solo qui s'appelle Gibbon, il y a un morceau qui s'appelle Marisa, qui est pour moi un gros signe d'apaisement. En général, je finissais le concert avec ça, et qui est vraiment l'endroit où on peut écouter du silence tous ensemble.
Bonjour Sophia.
Bonjour.
Blouson de cuir noir avec le X, croix blanche au gaffeur sur du noir. Toujours sur le blouson, un autocollant avec marqué SFA, Syndicat Français des Artistes Interprètes. Je veux vivre de mon métier.
Je suis musicienne et danseuse.
Pourquoi es-tu dans la rue aujourd'hui ?
Parce qu'on est dans un contexte politique et économique qui fait qu'il y a eu des grosses coupes budgétaires, de subventions liées au milieu culturel. Il y a une tendance des dernières années où il y a eu des grosses coupes budgétaires pour d'autres services publics, que ce soit pour les hôpitaux, pour l'enseignement, pour l'école, pour plein de choses. Comme je suis artiste-interprète, je suis plus touchée par la question artistique et des arts vivants et du financement de la culture. C'est bien sûr lié à toute la société. On a besoin de tous les services publics et aussi il y a des droits culturels qui sont communs normalement à tout le monde qu'on devrait pouvoir accéder. Il faut se rejoindre sur les causes qu'on a communes. Et en fait, pour faire une belle société joyeuse où les gens sont bien, vivent le plus heureux possible, bah, il faut de la culture, mais il faut aussi effectivement des transports qui fonctionnent, des hôpitaux qui fonctionnent, une école qui fonctionne et tout ça, et qui fonctionne bien, enfin pas au rabais quoi. Où il y a vraiment des moyens qui sont mis en place pour qu'on puisse, chaque personne puisse bien faire son travail et être épanouie, quoi.
Est-ce que tu sens des dangers au-dessus de ta tête à toi ?
Oui, alors moi ça fait seulement 3 ans que j'ai le statut d'intermittente du spectacle. Et pour autant, bah, ça a été assez difficile chaque année de rassembler les 507 heures minimum en tant qu'artiste. Et là, cette année, je vois que ça va être encore plus difficile. Il y avait des projets qui ne vont finalement pas se faire. Parce que, on travaille souvent avec à la fois, ça peut être par exemple une école, donc il leur manque une subvention sur un projet, bah en fait, voilà, là où ils pouvaient employer un ou une artiste, là ils vont pas pouvoir le faire en fait. Donc le projet va pas avoir lieu, donc c'est du travail en moins, des heures en moins qui vont être compliquées à rassembler. Puis voilà, je pense c'est important à chaque fois de se mobiliser avec plusieurs personnes, c'est comme ça que ça marchera au mieux.
Toujours devant le CCCOD, le Centre d'Art Contemporain, il y a des gens qui sont en train de fixer de grandes bannières avec marqué « culture » au pluriel en lutte. Riposte. Salut Thierry.
Salut JBD.
C'est quoi ton boulot, toi ?
Moi, je suis régisseur d'exposition au CCCOD. Okay. Je suis chargé de... Allez, on va résumer très vite de tous les accrochages d'expo.
Pourquoi je te trouve dans la rue aujourd'hui en train d'accrocher ces bannières ?
Écoute, aujourd'hui, il y a un mouvement national de défense des services publics et en particulier de la culture, auquel j'adhère à 100%, ainsi que la grande majorité de mes collègues, puisque nous sommes 12 grévistes sur 17 salariés du CCC, plus 4 personnes qui travaillent en service civique.
C'est-à-dire qu'on ne peut plus accéder au lieu ?
Ah ben là, aujourd'hui, oui, c'est fermé, puisque les salariés refusent de travailler aujourd'hui. Si la culture est aussi mobilisée aujourd'hui, c'est parce que nous, on est vraiment touchés de plein front. Mais on a bien conscience que sans service public, la culture ne peut pas fonctionner et que tout le monde souffre dans tous les services. Donc on est solidaire de tous les services publics, aussi très solidaire de la manifestation de samedi à laquelle nous participerons contre le fascisme et les racismes.
On pourrait se dire, oui, mais vous, les nantis du CCCOD...
Oui, il y a un décalage entre le superbe bâtiment dont on profite, qui appartient à tous, puisque c'est un bâtiment de tour métropole, donc payé avec l'argent de tous les contribuables, qui ne nous appartient pas, dans lequel on peut installer des expositions. Et nous, en tant qu'acteurs culturels, le CCC, nous sommes une association avec des salariés qui ne peuvent travailler que s'il y a des subventions et des beaux résultats d'entrée de visiteurs. Okay. Donc en fait, on est, nous, sur le même statut qu'un temps machine ou...
SMAC, salle de spectacle,
voilà,
concert.
Exactement. Ou que le théâtre Olympia à Tours... Moi, je pense qu'il ne faut pas cloisonner les luttes, on est tous ensemble. Et c'est vrai que l'art contemporain subit cette espèce d'image d'élitisme et de bourgeoisie culturelle, et nous y sommes opposés.
Bonjour Yannick.
Bonjour.
Est-ce que tu veux bien nous lire ce qui est marqué sur ton panneau ?
Sans orchestre, pas d'opéra. Et l'autre côté, c'est pour un orchestre national en région centre. Je suis musicien à l'orchestre de Tours et à l'opéra. Je suis timbalier, percussionniste. Voilà. Ça fait déjà 2 ans et demi qu'on se bat pour que les musiciens de l'orchestre de Tours passent en CDI à temps plein et qu'on ait un orchestre permanent. Parce qu'actuellement, tous les musiciens sont considérés en CDDU. On n'a pas d'emploi pérenne. Alors certains sont intermittents du spectacle, avec les conséquences que ça a, et d'autres ont des postes d'enseignants à côté pour compléter. Et nous, on se bat depuis 2 ans et demi pour avoir un orchestre pérenne, c'est-à-dire avoir un noyau de musiciens à temps plein, ce qui nous permettrait de tripler le nombre de concerts, d'opéras, etc. Et ça permettrait aussi à d'autres musiciens qui ont des postes et qui ne veulent pas les lâcher, de continuer à venir en supplémentaire. Donc ce projet, on l'a présenté depuis 2 ans et demi. Là, on l'a présenté au maire de Tours, qui a convenu que le projet était viable. On l'a présenté à la métropole, on a eu un bon accueil. Maintenant, le problème, c'est de le présenter à la région. Et on attend un rendez-vous avec Madame Dati, que Monsieur le maire de Tours a demandé, redemandé, redemandé. Et on espère que le peu de finances que ça demande, on est sur une base de 840 000 euros par an, ce qui fait à peu près 200 000 par tutelle. Ça peut se faire, et en ce cas-là, on aurait vraiment un outil exceptionnel à Tours avec cet opéra et cet orchestre. Voilà.
Cet argent, il y en a besoin pour acheter des armes, pour faire la guerre à des gens qui ne nous ont rien fait.
C'est ça le problème, c'est que est-ce qu'on est obligé de faire la guerre à des gens qui ne nous ont rien fait ? Et puis deuxième chose, est-ce que la guerre va avoir lieu ? On espère toujours qu'il y ait des gens qui réagissent intelligemment et qui œuvrent pour la paix. La guerre, c'est pas la fin en soi. La paix, oui, mais pas la guerre. Et on prône justement, grâce à la culture, la paix.
C'est combien de musiciens, l'Orchestre Symphonique de Tours ?
Actuellement, on est 52. On peut monter jusqu'à 80 musiciens.
J'ai souvent entendu dire que l'Orchestre Symphonique de Tours, l'OST, superbe machine qui coûte cher et qu'une petite ville de province comme Tours n'a peut-être pas les moyens de s'offrir.
Bon, c'est une légende urbaine, hein ? Oui. Parce qu'il y a quelque temps, le Figaro avait fait un article sur Tours et les opéras français en disant que Tours, qui avait un budget de 4 millions d'euros à l'époque, était le petit poussé et grâce à ça faisait des miracles. On a Alain Duhaut qui était un chroniqueur sur RTL le matin sur les opéras qui disait plutôt que d'acheter un billet à Bastille, venez à Tours, pour le même prix vous aurez le voyage, le restaurant et un super spectacle. L'opéra de Tours et son orchestre sont quand même reconnus et cette reconnaissance est due à la qualité des musiciens d'un niveau national et international. On a un orchestre de très bonne qualité. C'est pas parce que la Tours est une ville de 130 ou 140 000 habitants. Il n'y a pas que Tours, il y a la métropole. En 2002, la région nous a mandatés pour aller dans toutes les villes de la région. On est allé à Preuilly-sur-Cleuse, là on va aller à Lèze dans l'Eure, on va à Savonnières. On est un orchestre qui se déplace pour apporter la culture là où malheureusement les gens ne se déplaceraient pas à Tours pour la voir.
Finalement, on parle de millions d'euros, de centaines de mille. Enfin bon, quand on gagne un SMIC, finalement, ça fait beaucoup de zéros. Enfin, par rapport à d'autres choses qui sont des gouffres, Afrique, qui servent à rien. Les armes, par exemple.
Voilà, bah, on parle de je ne sais plus combien de milliards. Nous, on est à 848 000 euros pour faire fonctionner un opéra pendant un an. En plus de ça, il y a un problème, c'est que l'État n'a pas augmenté sa subvention depuis 2002. Donc s'il fallait récupérer l'inflation qui n'a pas été prise en compte depuis 2002, l'État devrait nous donner 700 000 euros de plus. Bon, la ville de Tours a beaucoup donné depuis 2 ans pour essayer de le récupérer, mais la ville de Tours ne peut pas être le seul investisseur, parce que tout le monde profite de l'orchestre et de l'opéra. Ce n'est pas quelque chose qui appartient à Tours, c'est quelque chose qui appartient à la région, l'État, le reste, quoi. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas réussi à avoir ces augmentations régulières pour résorber l'inflation.
Bonjour Michel.
Bonjour.
J'ajouterais même bonjour camarade.
Bonjour camarade.
Je dis ça parce que tu es en train, avec des camarades à toi, de distribuer ce tract avec marqué « Vive la culture ».
Oui.
Donc il y a le sigle du Parti communiste français.
Eh bien, nous essayons au niveau national d'organiser les états généraux de la culture. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de se parler. C'est un secteur très particulier, touché par les mesures inacceptables du gouvernement comme d'autres secteurs. C'est pour ça qu'il y a une manifestation à 15h d'autres secteurs. Ils sont touchés particulièrement parce qu'on ne connaît pas bien le monde de la culture, les statuts différents, les syndicats différents. Et nous, notre objectif, c'est que tout ce monde se parle et prenne conscience qu'il y a un gouvernement aujourd'hui qui se fiche de leur figure, comme il se fiche de la figure des retraités, des enseignants, des personnels de santé, de la même façon.
Est-ce que tu travailles dans l'univers, le monde de la culture, toi ?
Je suis à la retraite.
C'est scandaleux. Quand je vois tout le jus qu'on pourrait tirer de toi, hein, François Fillon avait raison, les gens ne veulent plus travailler.
Je ne pense pas. J'ai travaillé toute ma vie dans l'enseignement et le monde de la culture ne m'a jamais été indifférent, bien au contraire. Sans culture, un homme n'est pas complètement épanoui. Donc la culture est pour moi et pour nous au PCF essentielle. Et nous devons absolument la faire vivre et donner les moyens de la faire vivre, bien sûr.
Ce qui a toujours été un cheval de bataille du PCF, hein, de toute façon, la culture,
oui,
historiquement.
Oui, parce que c'est un épanouissement de l'individu. Si on veut voir ce qui se passe à une autre période, autrement, il n'y a pas qu'une voie, il y a plein de voies. Et ça, sans culture, c'est difficile à voir. Voilà. Tu prends un exemple très concret, le pass culture. Comme il était pas complètement satisfaisant, mais là il va le devenir beaucoup moins, puisque c'est l'événementiel qui va prendre le pas sur les petites compagnies. C'est-à-dire que seules quelques productions vont rentrer dans le pass culture. Donc les jeunes vont être orientés, alors que nous c'est tout l'inverse qu'on voudrait. C'est que les jeunes choisissent de la lecture, du théâtre, de la musique. Le gouvernement fait des coupes dans le pass culture. Et c'est une très mauvaise chose pour les jeunes, pour l'avenir, pour la culture.
Alors bon, c'est que la situation est grave, mais c'est cette ouverture vers les autres services publics, parce que la culture est un service public, mais il y en a d'autres.
Justement, on se bat pour un grand service public de la culture, comme on se bat pour la poste, pour la santé, pour l'éducation. C'est la même chose pour nous, sauf que je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'était un secteur plus difficile à comprendre, moins évident, des choses cachées. Il y a des gens aujourd'hui en burn-out qui n'ont plus de cachet, plus d'intermittence, par exemple. Ça ne se voit pas. Alors que quand un bureau de poste se ferme, on le voit. Mais c'est le même phénomène. C'est la même chose.
Oui, mes chers amis, bon, il y a des gens qui nous ont rien fait au demeurant, mais avec lesquels il faudrait envisager de faire la guerre. Ça coûte du pognon.
L'argent, il y en a dans ce pays. Il y en a plein. Il suffit de répartir les richesses et de ne pas toujours taper dans le porte-monnaie des petites gens. Voilà.
Bonjour Maxime.
Bonjour.
J'aime bien ta pancarte.
Ras la culture de vos conneries. De s'ouvrir à l'autre, de prendre du temps, d'établir des relations, d'établir vraiment des champs artistiques vastes, etc. Et ça va au-delà de l'intermittence, ça va vraiment sur tout le champ artistique. La situation des plasticiens, les enseignants de l'art, etc. Vraiment le champ très très large, les musiciens.
Même le public qui va pas très bien.
Et le public aussi, le public. Très très compliqué pour tout le monde et en fait on a besoin en fait de ces espaces de liberté, de questionnement qui sont primordiaux. À chaque fois les publics sont ravis de voir des propositions. Ils sont quand même assez conscients et conscientes que leurs enfants ont des ateliers, que leurs enfants vont au cinéma, qu'ils ont la chance d'avoir des choses à proximité dans leur ville, des choses gratuites, des choses moins chères, etc. Voilà, un petit peu ras-le-bol d'être mis de côté comme si on contribuait à rien et qu'on faisait que prendre de l'argent, des subventions. Les subventions, elles sont largement compensées aussi par toute l'activité économique que les domaines artistiques génèrent. Les billets de train, les hôtels, les restaurants, tous les acteurs locaux aussi.
Quand il y a grève au Festival d'Avignon, les cafetiers font la gueule. Hein. Quand les intermittents ils bloquent un théâtre, bah, ça fait rigoler le chien.
Voilà,
mais
c'est ça.
Quand les hôteliers et les cafetiers font la gueule, là, ça commence à être grave.
Mais ça serait bien de ne pas attendre justement que ce soit trop tard. Quand bien même il y a moins d'argent, tout le monde peut l'entendre. Quand on sait qu'on prend que d'un côté sans alternative et que aussi nos dirigeants et nos dirigeantes se gavent bien de l'argent public sans que personne trouve à y redire, en fait, bah, c'est là où il y a une problématique. En fait. Donc,
pour en revenir à ton cas, à toi.
Moi, je suis danseur.
Et est-ce que tu te sens menacé, toi, dans tout ça?
Je me sens un petit peu désœuvré. C'est pour ça que d'être ici aujourd'hui et même ne serait-ce que rencontrer des gens, ça fait quand même du bien. Ne serait-ce que d'ouvrir son spectre, parce qu'on est vite aussi enfermé dans nos activités, dans nos domaines.
C'est compliqué de fédérer, hein.
Je trouve que ce serait vraiment aussi intéressant de le rallier à des causes aussi vraiment plus larges, aussi sociales, parce qu'en fait, finalement, c'est un espèce de tout. C'est cool quand il y a une convergence des luttes et quand, à un moment donné, on sort de notre spectre. Alors, si je reviens, moi, personnellement...
Est-ce que tu te sens menacé? Est-ce que tu flippes pour ton propre sort?
Là, ouais. Là, cette année, je le vois vraiment. Je parle aussi pour des collègues intermittents, des collègues danseurs, danseuses, performeurs, performeuses, comédiens aussi. Là, cette année, c'est vraiment très, très compliqué. Il y a des gens qui ont eu leur statut depuis des années, qui ont une expérience de dingue et qui se retrouvent à manquer d'heures. Et l'intermittence... à cet avantage-là, mais aussi l'inconvénient. Ça reste une situation précaire, pas aussi précaire que, par exemple, les plasticiens, les artistes auteurs. Mais en tout cas, du jour au lendemain, tout s'arrête et ça s'est joué en quelques mois, finalement. Donc c'est ça qui est un peu aberrant. C'est qu'on nous propose rien et qu'on dénigre aussi tout le travail effectué, tous les partenariats, les relations dans les choses de manière locale et à des échelles un peu plus nationales. Tout le monde était content pour les JO. En disant c'est formidable, va y avoir des artistes pour l'ouverture, nanana. Et en fait, c'est aussi important de faire comprendre aux gens que c'est pas que dans ces moments-là où ça se joue. J'ai des copains et des copines qui ont fait partie de la cérémonie et qui ont à un moment donné gueulé parce que déjà il y avait des différences de cachet entre certaines personnes et d'autres. Donc ils ont pas voulu faire de vagues, je pense. Ils ont dû accepter des choses. Ça va au-delà évidemment de juste des JO et des événements, on va dire, festifs. Là où on dit ah bah oui, la France est une exception culturelle, oui, mais faut garder ça en fait. Voilà.
Bonjour Béa.
Bonjour.
Qu'est-ce qui est marqué sur le panneau que tu brandis?
Sans culture, c'est la dictature.
On sent tout de suite la patte culturelle, il y a une rime,
c'est
magnifique.
Ouais, je dois bien avouer que c'est pas moi qui l'ai faite.
Sans culture, c'est la dictature.
Pour moi, la culture, c'est aussi la culture populaire. Donc je mets ça aussi dans l'éducation populaire. Comment on réfléchit, on rêve. Et que si on n'a plus accès à la réflexion, à la pensée, et donc à la pensée multiple de la rencontre aux auteurs, aux peintres, à la musique, si on n'est pas ému, en fait, je mettrais ça sur l'endroit de l'émotion. Je pense qu'on se laisse plus facilement faire, on est plus facilement manipulable et la dictature arrive beaucoup plus vite dans ces cas-là. C'est une sorte de propagande bête. J'ai beaucoup lutté au départ quand j'étais étudiante de façon politique, uniquement. Et vite, j'ai senti que ça ne me correspondait pas et que j'avais besoin d'un endroit qui pouvait allier la revendication et ce que j'appelle l'artivisme maintenant. Mon endroit de lutte, je crois à la force du récit en fait. Voilà, à l'imaginaire en fait. Par la force du récit, je pense que c'est comme ça qu'on peut faire bouger des choses en fait. Que je ne crois plus aux démagogies politiques radicales.
Tu fais quoi comme métier ou quelle est ton activité?
Je suis artiste dramatique, on va dire, au départ. Okay. Mais je fais aussi beaucoup de coordination de projets, d'accompagnement, de la médiation culturelle, dans lequel j'ai mis le Théâtre Forum, qui est une façon de faire parler les personnes opprimées.
Es-tu intermittente du spectacle?
J'ai le statut d'intermittente.
Régime d'indemnisation, spécialiste de la précarité, puisque tous les ans, il faut renouveler les 507 heures.
Exactement, je suis une spécialiste de la précarité. C'est à peu près ça.
Et quelque chose qui me fait infiniment plaisir, c'est que sur cette affiche, là, il y a marqué culture au pluriel en lutte, et tout de suite après, avec les services publics. Et ça m'a fait tellement de bien de voir ça, parce que j'avais le sentiment peut-être erroné que le monde dit de la culture me semble aphone depuis des décennies, et que là, la situation est tellement grave qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors les bonnes nouvelles, c'est qu'il y a plein de métiers différents, il y a plein de secteurs culturels, plein de cloisons qui sont tombées, et c'était apparemment très difficile de fédérer les gens du monde de la culture dans des actions. Et là, ça a pris. Et l'autre truc qui me fait infiniment plaisir, avec les services publics, on n'est pas juste là pour nos 43 cachets, notre TVA. Le sentiment, j'allais dire enfin, les artistes ont plein de fonctions dans la société, notamment nous divertir, mais aussi veiller sur leur public, faire attention à leur public, être bienveillant, être dans le care avec le public. Et c'est ce que dit cette formule, en fait, avec les services publics. Vous n'êtes pas là juste pour votre couane, vous êtes là pour tout le monde.
Ça résume vraiment ce pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est que moi, défendre mon statut d'intermittente, ça n'a jamais été mon credo. Et en général, d'ailleurs, je fuis un peu toutes les manifs d'intermittents parce que je suis souvent pas très d'accord avec les gens. Mais là, je pense que ça touche à autre chose, et cette alliance, elle est de toute façon nécessaire et elle est réelle, en fait. On est interdépendants et dépendantes les unes des autres. Là, c'est le cas. Et moi, de l'impression que j'ai de mon petit endroit de cinquantenaire, j'ai l'impression que là, il y a eu aussi un renouveau. Et que quand j'étais à l'AG mardi et qui m'a motivée, j'ai vraiment entendu pas que les paroles de vieux syndiqués, que je trouve souvent patriarcales et qui m'oppressent, et pour lesquelles j'ai arrêté aussi de m'engager dans cette voie-là. Non, là, j'ai eu l'impression que vraiment, il y avait...
Un vent nouveau.
Il y avait un vent nouveau, ouais, voilà. Ne serait-ce que les débats de...
Ou le retour d'un vent ancien, mais...
De ne pas appeler ça « Debout pour la culture », comme ça avait été demandé, parce que les notions de validisme, elles sont aussi là, dans les luttes. Et moi, je suis vraiment pour des luttes intersectionnelles, et là, j'ai l'impression que, ok, peut-être ça va être possible.
Pourquoi ça prend cette année? Alors bon, parce que la situation est grave et dramatique, parce que le fascisme monte son nez partout, mais pourquoi est-ce que cette journée-là semble réussir ce qu'on espérait peut-être ou ce qu'on attendait depuis très longtemps?
Moi, je sais pas. Peut-être parce
c'est
que
la gravité de la situation.
Ouais, je pense qu'il y a la gravité de la situation et aussi parce que je pense que les luttes qu'il y a eu en juin dernier, elles nous ont aussi rappelé qu'on pouvait avoir une parole, en fait, que ça servait au moins à quelque chose de se rassembler. Moi, en tout cas, ça a été mon enseignement du mois de juin. Pour pas mal de personnes qui sont là aussi, puisqu'on en a parlé ensemble, c'est-à-dire que ce qui s'est passé en juin, où on a un peu repris en main avec cette histoire de nouveau Front populaire, en tout cas, qui nous a remis un peu dans la rue et dans une forme de lutte joyeuse, en fait. En tout cas, même quand je savais plus pourquoi j'allais dans la rue, là, je me disais, au moins, je vais voir les copaines et au moins, on va parler ensemble et ça va me donner de l'énergie et je vais sortir de la sidération parce qu'on en a parlé en AG. Là, on est un peu tous dans la sidération et c'est contre ça qu'il faut qu'on lutte aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte de chez nous et il faut qu'on soit ensemble. Et on ne sait pas si il va se passer quoi que ce soit, mais au moins, on rechoppe le bonheur de se voir et de savoir qu'on est là.
Je t'avoue que je me tâtais, moi, en me disant, oui, encore une manif d'intermittent. Briser l'hiver, briser l'isolement, briser la sinistrose. Je vais te faire un aveu. En fait, je suis venu ici vous retrouver, certes, avec ce magnéto, mais pour exactement les mêmes raisons que tu viens d'énumérer, en fait, voir des copaines, pour celles et ceux qui accordent leur consentement, se faire des hugs, être ensemble, avoir de la chaleur humaine et profiter de ce soleil printanier aussi.
C'est pas rien de se retrouver.
Ma motif première n'était pas tant de faire un reportage, mais par exemple de dire, tiens, je vais peut-être croiser Béa.
Ouais, je m'intéresse beaucoup à ça en ce moment, sur ce que c'est la rencontre à l'autre et tout ce qui nous lie, en fait. Et bien en fait, on en a besoin et on est
un peu comme si on était des animaux grégaires, quoi.
Mais totalement, mais on l'est aussi. Et pour moi, la culture, c'est vraiment l'entretien de ça, de ne pas oublier qu'on est en lien les unes avec les autres.
On parlait à l'instant de l'importance de l'émotion dans nos vies. Et plusieurs plages d'émotions ont justement jalonné cette longue déambulation qui a fait halte devant divers lieux de culture de la ville, comme par exemple ce très beau moment devant le conservatoire où des gens se sont mis aux fenêtres pour chanter.
Oh.
Bonjour Célia.
Bonjour.
Tu es avec ton camarade ici dans ce cortège. Et alors il a un truc marqué dans le dos que j'aime beaucoup. Tu veux bien nous le lire s'il te plaît ?
Tout à fait. Il y a écrit « Contrairement à la finance, la culture enrichit tout le monde ».
Bonjour Pauline.
Bonjour.
On se rencontre dans ce cortège. Et alors on est en train de zioter tous les deux ce panneau. Est-ce que tu veux bien nous le lire s'il te plaît ?
Ce panneau dit « La culture, c'est prendre soin ». J'aime cette phrase parce qu'elle renvoie tout de suite à un ailleurs et un autrement, mais aussi à nous, parce que j'ai l'impression qu'elle donne du temps et de l'espace et qu'elle nous ramène aussi à l'essentiel, n'est-ce pas, de cette culture qui, je pense, est essentielle, en fait. Voilà. Et toi ?
Ben moi, ça me fait plaisir parce que j'avais le sentiment, depuis quelques décennies, un sentiment peut-être erroné jusqu'à aujourd'hui, que finalement le monde de la culture était un peu dans un entre-soi et qu'il n'y avait pas toujours beaucoup de considération pour le public.
Là, j'ai...
Pour les gens, ouais. Et donc ça m'est déjà arrivé de m'engueuler avec des copaines intermittentes en disant « Oui, d'accord, vos luttes pour vos 43 cachets, là, on comprend bien. Mais en fait, vous avez le droit de venir aux autres manifs aussi. » Contre la casse du système de retraite, de l'hôpital, de l'école, de voilà. Et là, c'est ça qui me ravit sur ce mouvement aujourd'hui, manifester pour tous les services publics, pas seulement celui de la culture finalement, mais et donc c'est cette conscience qui s'ouvre que la lutte, elle doit être transversale, qu'il ne s'agit pas seulement de lutter pour son bout de gras, mais pour tout le monde. Et donc c'est à ça que me renvoie cette pancarte, la culture, c'est prendre soin. Et ouais, je pense que l'artiste, il a pour rôle de nous divertir, par exemple, il en a d'autres, mais aussi il nous sert de vigie, il nous protège, il voit le danger avant nous. Voilà, il nous divertit, mais il est aussi là pour nous protéger et prendre soin de son public, public d'ailleurs qui le nourrit. Hein.
Pour moi, c'est aussi cette idée d'être relié et que quand même la culture, c'est ce qui nous relie. Quand tu vois quelque chose, le raccrocher à autre chose, c'est mettre une émotion sur une image, c'est mettre un moment de vie sur une musique, c'est voir des gens qui font du cirque et que c'est incroyable de penser que un corps peut faire ça. Cette question d'être relié et de nous donner des possibilités, je le vois aussi comme ça, le prendre soin. Peut-être aussi justement de se dire que nous, spectatrices, lectrices, c'est pas que l'artiste qui voit avant nous, c'est nous aussi qui allons chercher culture pour vivre et pour prendre soin de nous, de nos relations, de l'endroit où on vit. Et pour ça, il faut qu'il y ait des artistes qui aient offert des œuvres et des éléments qui puissent être partagés avec d'autres. Tout est tous actifs et actives. Les artistes ont un rôle là-dedans, mais finalement, tout le monde a un rôle pour la culture.
Est-ce que tu travailles dans ce monde-là, toi ?
Tout à fait, je suis une travailleuse culturelle. Je suis indépendante, plutôt sur des questions de développement de projets, d'accompagnement. C'est plusieurs métiers.
Okay.
Je suis un peu artiste, un peu chercheuse, un peu accompagnatrice, un peu facilitatrice, conseillère, un peu développeuse, un peu tout ça. Travailleuse indépendante. Donc qu'est-ce que je risque en ce moment ? Je n'ai aucun filet de sécurité sur quoi que ce soit. Dans les petites choses de côté qui atteignent évidemment tous les travailleurs et travailleuses indépendantes de tous les métiers, donc pas seulement culturels, le seuil de TVA, d'assujettissement à la TVA, vient d'être baissé de 33 000 à 25 000 euros. Potentiellement, ça nous précarise encore plus, notamment les petits, parce que les gros étaient déjà assujettis à TVA parce qu'ils gagnaient de l'argent qu'ils pouvaient reverser.
C'est dans l'air du temps hein, d'aller chercher les sous dans les poches des petits.
Ça ressemble un peu
mode.
À ça, malheureusement. On est vraiment quand même dans l'extrémité d'un monde où il y a l'accaparement de ressources par un petit nombre. On nous fait croire qu'il manque des sous, mais c'est quand même pour moi vraiment une question de redistribution.
Je sais pas, apparemment, ils n'ont pas de mal à en trouver pour fabriquer des armes. Donc, c'est que finalement, il y en avait.
Par exemple, ou pour donner de l'argent à un certain nombre d'actionnaires des entreprises polluantes de la planète. Regardons-nous nous-mêmes, est-ce qu'on est capable de ne pas être capitaliste et de ne pas chercher notre petit profit ? Prenons soin.
Bonjour Julie.
Bonjour.
J'ai du mal à décrypter ta pancarte. La typo est particulière.
Alors c'est la typo Loire. créé par Alice Savoie, une typographe, pour incarner le fleuve Loire. Voilà. Il est écrit sur ma pancarte « Sans artiste, qui pour vous émerveiller ?»
Tu l'as choisi cette pancarte ou on te l'a donnée comme ça avant la manif?
Alors on me l'a donnée, on était un groupe, voilà, on venait du Fun Lab. Ces derniers jours, il y a eu des ateliers de fabrication de pancartes. Quelqu'un qui a utilisé cette typo.
Et... J'avais une confusion entre le V et le U.
Je crois qu'il y a eu confusion par la personne aussi. Elle a inversé.
Est-ce que tu travailles dans le monde de la culture?
Oui, je travaille pour une association qui n'est pas forcément représentative du spectacle vivant, par exemple, mais qui a un lieu de culture, mais un lieu de culture technique. Voilà, un atelier partagé où on a du matériel et chacun peut venir utiliser des machines et fabriquer, réparer, inventer.
Ça s'appelle comment déjà ?
Le Fun Lab. Okay. Il y a beaucoup de personnes différentes qui viennent dans ce lieu. C'est un lieu aussi où on discute, on interroge les cultures numériques, l'usage du numérique, où on mêle les pratiques manuelles et numériques. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont des métiers culturels, artistiques, qui viennent dans ce lieu. C'est un outil de production en fait. Il y a pu y avoir des gens qui sont venus fabriquer des éléments de décor, de la scéno, imprimer des posters, des affiches pour un concert ou... des revues, des fanzines. Il y a tout un côté édition au Fun Lab où on peut aussi partager des connaissances, diffuser des récits aussi. Voilà. On peut être un lieu qui va être plutôt utilisé pour l'éducation ou un lieu plus orienté vers le social ou au contraire la technique pure et la culture. Et, la façon dont on peut être perçu n'est pas forcément reliée directement au monde de la culture, mais nous, on se sent pleinement faisant partie du monde de la culture.
Tu es là dans une pensée globale. Comme tout le monde, ici, au Fun Lab, est-ce que l'époque est menaçante aussi pour toi ?
Oui, pour nous tous, acteurs associatifs, le contexte est compliqué au jour le jour. On a des soutiens précieux de collectivités comme la ville de Tours, la région, des gens comme ça. Mais après, on essaie de construire un modèle pérenne aussi. Donc on est dans plein de questionnements en ce moment. On vient de déménager, de s'installer, donc ça soulève plein de nouvelles questions aussi. Mais oui, on ressent ce sentiment, bien sûr, ce contexte fragilisant pour nos structures. Et puis plus largement, voilà, en tant que citoyen, citoyenne, c'est un moment un peu perturbant, un peu inquiétant. Ouais. Mais en tout cas, on met plein d'énergie pour, au contraire, continuer à faire plein de choses et plein d'actions auxquelles on croit et auxquelles on trouve qu'il y a du sens dans une ville, un lieu comme ça ouvert à tous et toutes. On déploie aussi beaucoup d'énergie parce qu'on est passionné et on a envie de continuer nos activités. Et ça nous plaît. On aime ce qu'on fait. Et d'être ensemble, bien sûr. Ouais.
Bonjour Despiens.
Bonjour.
D'habitude, quand il y a des manifestations, enfin j'en ai vu quelques-unes, où c'est toi qui portes le micro, éventuellement la caméra. Bah, là, tu es venu en civil.
Je pense que c'est important d'être là aujourd'hui, pas en tant que teneur de micro, mais voilà, face en fait à tout ce qui se passe voilà, dans notre société aujourd'hui, et surtout en fait lié à la culture. Il est important que tous les acteurs en fait, se mobilisent pour voilà, donner un coup de boost en fait, à cette manifestation qui semble vitale et utile en fait, pour notre société. Voilà.
Qu'est-ce que tu fais, toi ?
On a un média de proximité qui s'appelle Wanted TV, qui est en même temps une émission diffusée à la télévision. Et on fait beaucoup l'éducation média à l'information. Et donc, c'est totalement...
En fait, la dernière fois que je t'ai croisé, c'était quand il y a deux marcheuses de la marche contre le racisme. Parce que les journalistes avaient appelé la marche des beurs à l'époque, mais c'est pas comme ça qu'il faut dire. On s'était croisés à Jouer les Tours, quand deux de ces marcheuses étaient venues parler de la marche.
Exactement. C'est à Jouer les Tours qu'on s'est croisés. C'est toujours dans le milieu culturel, le milieu social qu'on s'y trouve parce que c'est des valeurs qui sont très importantes en fait, pour notre société.
Wanted TV, en fait, c'est une structure qui fait aussi de l'éducation aux médias.
Exactement. On fait beaucoup l'éducation aux médias, à l'information. On produit en fait, des contenus en fait, pour la télévision. On est aussi en ligne. Donc c'est un média de proximité aussi en, fait, en même temps.
Donc vous faites des ateliers. Enfin, pour la marche, il y avait des jeunes en fait, qui tenaient les caméras, qui tenaient les micros. Et toi, tu checkais quoi.
Enfin, voilà,
qui...
c'est ça en fait. C'est ça ce qu'on fait. C'est donner la parole, faire à ce que les citoyens en fait, soient eux-mêmes en fait, acteurs de leur parole, c'est important. C'est tout ce qu'on fait, en fait au cœur de notre association qui s'appelle Prod Cité. Wanted TV, c'est un projet et Prod Cité, c'est l'association qui porte en fait, le projet.
Dire un poème.
Il y a beaucoup d'acteurs qui sont là et je pense que c'est bien, c'est une première. Je pense que ça va s'amplifier au fur et à mesure en fait, voilà, pour que ces messages en fait, voilà, soient remontés en fait, personnes concernées pour qu'ils changent en fait leurs décisions.
Alors toi, tu as parlé de l'aspect général tout à l'heure et de la société.
Ouais.
Et c'est génial parce que tout le monde commence par là en fait avant de parler de son petit cas.
Ouais.
Mais du coup, vous, votre asso d'éducation aux médias, vous vous sentez menacé? Ça craint?
Là, en fait, c'est un combat collectif. On ne va pas parler de notre petite association. Je pense qu'il faut parler en fait collectif. À ces niveaux-là, il n'y a que le collectif qui peut compter. Et donc, d'où le fait qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont là. Notre situation à nous, voilà, elle est difficile, comme pour tant d'autres associations. Mais on essaye de tenir en fait la tête haute pour pouvoir en fait continuer. Parce que lâcher, c'est aussi en fait s'y soumettre à ces décisions-là. Donc malgré tout, on doit continuer en fait le combat. Le combat, c'est au quotidien. Et on le fait depuis en fait de nombreuses années, comme plein d'autres associations en fait orangelles et partout en France. Et je pense qu'il faut qu'on soit en fait unis pour gagner. Cette démarche, elle est valable en fait pour toute association, toute structure en fait culturelle finalement.
De coaching de manifestation. Déjà, merci à tous et toutes d'être là, c'est génial. À partir du moment où on a convoqué l'Assemblée Générale, je pense qu'on peut être hyper fiers en 15 jours d'avoir fait jaillir toutes ces belles énergies créatives et vivantes. Ça veut dire qu'on a un potentiel incroyable et qu'on n'est qu'à une étape de tout ce qui est en train de se passer là. Je pense qu'on en a tous et toutes conscience. On est désorganisé. Pour continuer, on doit trouver des perspectives pour aller bien sûr dans le même sens et continuer à construire cette mobilisation en faisant du lien entre nous et en faisant du lien avec les autres qui nous ressemblent, soit dans d'autres régions ou dans d'autres services publics, etc. Je pense que chacun et chacune a conscience de ça. Du coup, il y a vraiment un enjeu à ce que chaque personne ici présente réfléchisse à ce qu'elle peut mettre dans ce mouvement-là et à quel endroit, et à penser que c'est un mouvement collectif et qu'on n'a pas des enjeux personnels là-dedans, de réussite ou de quoi. On vient, on essaye, on travaille ensemble, on est d'accord, pas d'accord, on est content, pas content, des fois on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut vivre, on a à être fiers tous et toutes de ce qu'on fait, on l'a choisi, on est des professionnels, on fait un travail de dingue pour la société, pour notre démocratie, pour l'ouverture d'esprit, pour la transformation. On est tous des acteurs de ça et on peut en être fiers. Et on a besoin de se réhabiliter avec ça et de sortir de cette espèce de processus de sidération. Renseignez-vous sur comment ça marche, la sidération, pour en sortir. Et là, en faisant ce qu'on fait, on est en train de faire ça. Donc, chacun, chacune, restez en éveil, en veille. Allez-y de votre créativité, de votre bonne volonté de proposition. Et si on se prend des murs, c'est pas grave, mais on sait qu'on est sur la durée. Donc soyons indulgents les uns avec les autres, les unes avec les autres, sur les erreurs, un peu de communication, les oublis des uns, les prendre le devant sur les autres, tout ça. Voilà, on fait chacun, chacune au mieux. Donc essayons de continuer à voir loin et à ne pas s'arrêter aux petits barrages sur lesquels on va avoir. On a en face de nous des gens organisés, des gens qu'on salarie des gens pour savoir comment monter des stratégies de communication, comment monter des stratégies pour contenir les mobilisations, etc. C'est des professionnels. On est des professionnels de notre métier, mais on est des amateurs de ça. Donc, on a besoin de se professionnaliser pour que cette lutte, elle se transforme en réussite. Et donc, on a besoin d'être à la hauteur de ça. Donc, les personnes qui se sentent à différents niveaux comme ça de réflexion, de compétences, identifiez-vous pour mettre vos capacités, vos compétences au service de cette lutte et chacun à sa place, que ce soit dans la confection de panneaux, dans la rédaction de communiqués, dans la réflexion de qu'est-ce qu'on dit au public qui veut nous soutenir, comment il peut nous soutenir, il faut absolument qu'on trouve ça. Donc voilà, il y a vraiment des réflexions à différents niveaux, il y a de la place pour tout le monde et comme tous les citoyens sont concernés, n'hésitez pas, à chaque fois que vous pensez à quelqu'un, un média, un politique, un ami, n'importe quoi, allez-y pour faire converger ces luttes qui sont au-delà de nos revendications, vraiment des enjeux de société. On est d'accord que nos revendications elles sont légitimes quand on est en démocratie, mais là, on n'est pas avec des gens qui ont envie de discuter avec nous, donc on ne peut rien en faire tant qu'ils sont là. Je crois que c'est un peu évident pour tout le monde. Et voilà, il faut arriver à se rejoindre tous ceux qui pensent comme nous et je pense que vous pensez comme moi, je peux dire nous. Voilà, pour trouver le moyen de transformer toute cette belle énergie en quelque chose d'actif. Là, déjà, ça nous nourrit, ça informe, mais il faut qu'on aille au-delà de ça. Donc, continuons à réfléchir ensemble, à s'aménager des espaces entre soi, inter-soi, pour réfléchir, mais aussi pour se faire du bien. On soit content d'être venu. Quand on est venu quelque part, il faut qu'on soit content d'être venu et pas que ce soit un poids. Voilà, c'est important pour en remettre de la vie, parce que ce qu'on veut, c'est ça, c'est être vivant.
Ouais, aujourd'hui, donc... Toutes ces manifestations ont lieu en France. Il y a plus de 20 villes hein, où il y a des manifestations. Ça a l'air d'être bien démarré quand même. Il y a des lieux qui sont en grève, comme l'Orchestre Symphonique de Toulouse, par exemple, un orchestre d'ampleur nationale. Nous sommes ici aussi à l'appel des organisations syndicales, que ce soit organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, donc de la création artistique, l'éducation artistique, et nos revenus, nos emplois, nos salaires, nos droits sociaux sont aujourd'hui menacés plus que jamais. On est aujourd'hui le 20 mars. On marque un point important, mais il y a aujourd'hui deux logiques qui s'affrontent. Celle où le gouvernement, vous avez pu l'entendre, qui dit par exemple « pas question qu'on touche à la réforme des retraites parce qu'on n'a pas l'argent pour ». Mais en même temps, aujourd'hui, Macron réunit les industriels et les banquiers pour débloquer des milliards pour l'industrie d'armement, pour la guerre, avec une injonction qui nous est faite par le gouvernement américain, de Trump, de passer à 5% du PIB en dépenses d'armement. Ça veut dire passer le budget de l'armée de 50 milliards à 150 milliards à terme. Où est-ce qu'ils vont prendre l'argent? On sait où, voilà. On est là pour ça parce que ça a déjà commencé. Donc on n'est qu'au début de la bagarre. L'autre logique, c'est aussi aujourd'hui celle des syndicats qui sortent du conclave sur les retraites. Le conclave de Bérou, qui était un piège, évidemment, pour qu'on dise ben, finalement il faut que les salariés encore en prennent plein la poire parce que de toute façon le patronat a dit qu'il n'allait pas augmenter les cotisations. Donc comment voulez-vous faire? Eh ben, vous allez être obligé soit de partir beaucoup plus tard en retraite, soit d'augmenter le nombre de trimestres. Enfin voilà, c'était ça dont il était question. Et aujourd'hui, il y a une logique qui fait que des syndicats sont sortis, il faut en premier la CGT maintenant. Donc la logique, ça devrait être d'organiser des mobilisations d'ampleur sur ce sujet-là, qui va rejoindre tous les autres sujets, puisque aussi c'est au nom du budget militaire, au nom de la nécessité de guerre, qu'on dit qu'aujourd'hui, il n'est plus question de discuter des retraites et de l'augmentation des dépenses de retraite qui seraient nécessaires parce qu'il y a plus de vieux, tout simplement. Enfin, nous, artistes syndiqués, moi je suis syndiqué à la CGT, au syndicat des musiciens, on sait qu'il n'y a pas de petites ou de grandes revendications, tout peut être lié, tout se touche, mais on a une tradition dans le mouvement syndical, en tout cas à la CGT, qui est fondée sur la charte d'Amiens. La charte d'Amiens, c'est une vieille charte, ce que certains voudraient détruire au nom du fait que c'est trop vieux, ça fait plus d'un siècle, etc. Mais enfin, il y a beaucoup de choses qui sont vieilles qu'il faut garder quand même. Hein. La République, par exemple, même s'il faut changer les formes, mais en tout cas la République contre la monarchie. Mais que dit la charte d'Amiens? Elle nous dit que l'émancipation intégrale ne peut se réaliser que par l'expropriation capitaliste. C'est-à-dire qu'on peut se bagarrer sur des petites choses, mais le but, c'est l'émancipation intégrale. Évidemment, il s'agissait de l'émancipation économique de toutes les formes d'exploitation et d'oppression. Mais nous, on peut dire aussi, en tant qu'artistes, que c'est aussi l'émancipation de la création artistique qui soit libérée de la nécessité de réaliser du profit pour être libre dans leur création, pouvoir vivre de nos métiers et sans autre considération, et surtout pas en étant soumis à une logique de profit à quelque niveau que ce soit. Notre légitimité, c'est ça, c'est celle de la culture, de l'art contre la barbarie et contre l'obscurantisme. On a besoin de culture. L'art et la culture, ben, c'est ça qui rend la vie belle, tout simplement. Donc on en a tous besoin, qu'on soit artiste ou pas d'ailleurs.
Et voilà les amis, un renouveau semble souffler sur le monde de la culture en France, et c'est une bonne chose de savoir la culture solidaire de son public. Vous pouvez télécharger ce reportage sur notre site www.polemixetlavoixoff.com avant qu'on se retrouve très bientôt sur votre radio libre préférée. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.